Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Tring Xuan Tuan, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs de Canal Academy ont le plaisir de vous retrouver. Ils peuvent se reporter également à une précédente émission que nous avions consacrée à la sortie de votre ouvrage « Les voies de la lumière ». Nous entretenons aujourd'hui avec vous dans les salons de la Société des gens de lettres à Paris où le prix Louis Powels va vous être remis. Pour votre dernier ouvrage, Le Cosmos et le Lotus, qui vient de paraître chez Albin Michel. Alors, déjà, le titre à lui seul de votre ouvrage nous délivre votre intention essentielle, la voix de votre réflexion, si je puis dire, la réflexion de l'héritier du confucianisme que vous êtes et de l'astrophysicien. Alors, le confucianisme, c'est un héritage transmis depuis des générations. Et l'astrophysicien, c'est l'homme que vous avez choisi de devenir par vous-même. Est-ce que ça a été une grosse interrogation de votre part de placer le cosmos avant le lotus ou le lotus après le cosmos ?
Non, dans mon esprit, c'est vraiment, il n'y a pas d'ordre priorité, vous savez. Ce sont deux facettes également importantes de ma vie et je tenais à le mettre dans le titre. Je pense que peut-être ça sonnait mieux, le cosmos et le lotus, mais j'aurais été très très content d'avoir le lotus et le cosmos aussi.
Il n'y a aucun favoritisme
par rapport
au monde de la science et par rapport au monde de la spiritualité.
Non, non. Je pense que les deux jouent un rôle également important pour moi. Et bien sûr, quand j'étais jeune, emporté donc par les intérêts de l'astronomie, peut-être que j'ai passé plus de temps à faire l'astronomie. Mais au fur et à mesure que j'avance en âge, que la maturité vient, bien sûr, les questions philosophiques et métaphysiques redeviennent plus importantes. Et bien sûr, ma tradition spirituelle du début, avec laquelle j'ai grandi, donc la tradition bouddhiste, joue un rôle de plus en plus important pour moi dans ma vie.
Ce sont selon vous des plans différents ?
Moi, je dirais peut-être différents, mais complémentaires. Elles ne s'excluent pas. Vous savez, dans mon monde, surtout le monde scientifique, il y a beaucoup de mes collègues qui ne souffrent pas de parler de science et de spiritualité en même temps, ou peut-être dire même qu'ils sont complémentaires. Vous savez, ils pensent qu'un scientifique doit seulement se cantonner à la description des phénomènes de la nature et de ne jamais se préoccuper, du moins publiquement, sur les questions spirituelles. Et je sais, par exemple, il y a des mes collègues qui sont plutôt de tradition chrétienne, mais ils pratiquent bien sûr leur métier d'excellente façon. Et je suis sûr qu'ils, le dimanche, peut-être ils vont à l'église, ou au moins ils ont été élevés dans la tradition chrétienne. Mais ils viendront, je pense, jamais à leur idée d'allier les deux, ou peut-être du moins publiquement, vous voyez, comme moi je le fais dans mes ouvrages ou sur les ondes. Et donc, moi je récuse un peu ça parce que je pense qu'un être humain, vous savez, a besoin de science, mais aussi de spiritualité. Et divorcer les deux, et surtout que si ce sont deux systèmes de pensée qui sont logiques et cohérents et qui prétendent décrire la même chose, ici le réel, ils doivent se rencontrer quelque part. Parce que s'ils sont complètement orthogonaux, je pense qu'il y a un problème soit avec l'un des systèmes de pensée ou avec les deux. Donc pour moi, en fait, c'est un exercice de cohérence intellectuelle. Vous savez comment le scientifique du 21e siècle voit le monde et comment Bouddha, quand il a atteint l'éveil, qui donc par définition est l'accès à la connaissance suprême, il y a 2500 ans, comment il voyait le monde. Et ça, je voulais savoir, et c'est pourquoi j'ai exploré cela avec l'aide de mon ami Mathieu Ricard.
Oui, vos détracteurs, on continue un tout petit peu là-dessus, argumentent qu'une théorie physique ou une constante fondamentale, eh bien c'est un modèle mathématique dont les interprétations ne peuvent pas précéder la réalité physique. Donc, tout ne serait que question d'interprétation, un peu comme un musicien. Un musicien, c'est une des questions fondamentales dans la musique. A-t-il le droit d'interpréter la musique d'un Beethoven, d'un Bach. A-t-il le droit d'y apporter son humanité, sa façon de respirer en prenant des silences, en appuyant telle note qui doit être accentuée ou au contraire baissée? Vous voyez, la question d'interprétation de la science.
Oui, je suis d'accord donc avec cette position du point de vue de l'activité scientifique, c'est-à-dire je pratique la méthode scientifique. Vous savez, donc j'observe, j'ai une théorie et puis cette théorie prédit des choses que je peux vérifier soit avec mon télescope, soit avec mon accélérateur de particules. Et si les observations ne sont pas conformes aux prédictions de la théorie, bien sûr, il faut la réviser ou même la jeter à la poubelle s'il le faut. Mais je souscris entièrement à la méthode scientifique. Mais je pense que, surtout dans mes ouvrages, bien sûr, je ne me lance pas dans des spéculations métaphysiques dans mes articles scientifiques, dans les journaux à revues, lus par mes pairs, etc. Bon, vous ne verrez jamais des spéculations comme ça. Mais je pense que quand j'écris un ouvrage, surtout qui est destiné au grand public, je pense qu'il a le droit de savoir aussi ce que je pense de mes découvertes scientifiques ou des découvertes des scientifiques de mes collègues. Et donc, du moment qu'on soit absolument clair, c'est-à-dire que dans mes ouvrages, je dis, bon, ici s'arrête la science, c'est-à-dire les phénomènes observés sur lesquels tout le monde est d'accord, mais l'interprétation métaphysique, c'est la mienne. Et je parle toujours d'un pari pascalien. Pascal est un être que j'admire beaucoup parce que c'est non seulement un grand scientifique, justement, mais lui aussi, il s'est penché sur la question de la foi et donc il a allié les deux. Donc, un grand esprit pour moi. Et donc, je dis toujours mon pari pascalien dans mes ouvrages, mais du moment qu'on soit clair, il ne faut pas dire que la science démontre telle et telle l'existence d'un principe créateur, etc. Ce n'est pas vrai. Je dis que le hasard, si vous préférez le hasard, est parfaitement bien aussi. Si vous préférez un monde sans aucune intention, sans aucun principe créateur, c'est bien aussi. La science ne peut pas contrer cela, parce que c'est au-delà de son domaine d'investigation. C'est de la métaphysique. Mais du moment que dans mes ouvrages, je suis clair, je pense que j'ai le droit de dire ce que je ressens à mes lecteurs.
Alors je ne sais plus si c'est Einstein qui disait, et puis on reviendra sur le nom d'Einstein dans un instant, vous concernant, qui disait que le hasard c'est l'un des noms de Dieu quand il ne veut pas se nommer. Enfin, je ne sais pas si on lui accorde cette phrase. Mais vous avez à l'Académie aussi l'exemple d'un grand personnage, ethnologue dans sa spécificité à lui, Claude Lévi-Strauss,
bien
qui
sûr,
a écrit La Science en disant « moi, je ». C'est un courage. Et c'est un courage, et puis c'est un désir de communication démontrant une générosité. Parce que dans le monde de la science qui vous environne, cher Trinh Xuan Tuan, il y a, comme vous le disiez, cette espèce de « nous sommes les personnes de connaissance », un peu comme les scribes et les gens dans les religions conservaient la connaissance comme un trésor, mais à ne partager qu'entre initiés. Et vous avez le courage de venir vers nous, la plèbe, et de dire « je sens, je ressens ». Et l'un des chapitres, justement, de votre livre s'intitule « Confession d'un astrophysicien ».
Ouais, c'est même le sous-titre de l'ouvrage.
Voilà, oui, donc oui. Cela vous donne l'entière liberté de nous parler,
voilà,
et de vous réjouir avec nous de vos découvertes.
Voilà, mais du moment que je le répète, donc, que je sois clair où s'arrête la science et où commence l'interprétation métaphysique sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord.
Tout à fait. Alors, je parlais d'Einstein. Alors, on va voir que c'est un personnage qui a compté quand vous étiez très jeune.
Oui, oui.
Revenons à vos
sources.
C'est mon idole. Aux sources de votre humanité. Vous nous confiez, je suis le produit de trois cultures, né vietnamien, éduqué à la française et j'ai acquis toute ma science aux États-Unis. Alors, vous voyez le jour à Hanoï, c'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà. Mais votre famille doit se déplacer sous le gouvernement d'Ho Chi Minh. Donc,
voilà. En 54, après le traité de Genève qui divise donc le Vietnam en deux, le nord et le sud, et mon père étant un mandarin qui travaillait donc dans l'ancienne administration coloniale française, avait peur des représailles donc du gouvernement communiste, donc il a décidé de tout abandonner, en quelque sorte, de repartir à zéro dans le Sud.
Alors, vous avez quel âge pendant la guerre du Vietnam?
Quelle guerre? La deuxième ou la première? La guerre
non,
française?
Non, la guerre contre les Américains.
Oh, vous savez, ça a commencé en 63. Donc, moi, je dirais, j'avais 15 ans.
Vous dites finalement que votre enfance, que ce soit la guerre civile ou que ce soit la guerre contre les Américains, s'est toujours déroulée dans une atmosphère de guerre.
Tout à fait. Je n'ai jamais connu l'impression de paix dans mon pays quand j'ai grandi. Vous savez, c'est la première fois que je suis sorti du Vietnam, c'était en Suisse. J'ai passé une année en Suisse à l'École polytechnique de Lausanne. Et c'était vraiment un étrange sentiment de me promener la nuit sans que l'obscurité soit menaçante, sans qu'on attend quelque chose de terrible à vous arriver dans le noir, vous voyez, avec des balles qui sifflent, des batailles rangées, etc. Donc, ce sentiment, je l'ai connu que quand j'ai quitté le Vietnam pour la première fois, donc je suis arrivé en Suisse en 1966, quand j'avais 18 ans.
Et c'est une angoisse dont vous vous êtes débarrassé en regardant les étoiles?
Oui, oui, moi je pense que le ciel, la communication avec le ciel m'apporte quelque sérénité. Regardant l'harmonie et l'organisation de l'univers, bien sûr, c'est un grand bonheur.
Alors, il y a des pages fort intéressantes et émouvantes lorsque vous nous parlez, par exemple, de la notion de reine, la plénitude d'humanité, un amour de l'humain. Toutes ces choses qui vous ont été communiquées grâce à Confucius, on rappelle les dates de Confucius, 551-479 avant Jésus-Christ. Alors, ce sentiment de plénitude d'humanité, cet amour de l'humain, et vous dites que c'est la pierre angulaire de cet enseignement confucéen.
Oui, tout à fait. Donc, moi, j'étais toujours, dès l'enfance, imbu de, justement de cette, moi je dirais entre guillemets, cette mission d'apporter quelque chose à l'humanité. Et pour moi, je pense que c'est le savoir et l'enseignement. Je pense que c'est ce qui a dicté ma voie après, donc devenir donc un chercheur, donc chercher la connaissance et puis la transmettre en étant un professeur et puis maintenant en écrivant des ouvrages qui s'adressent au grand public.
C'est un message empreint de bouddhisme, que chacun trouve sa voie et la partage avec d'autres et en fasse profiter la société entière.
Oui, c'est bouddhisme, mais aussi c'est confucien, on vient de le dire. Hein. C'est une mission, en quelque sorte, de transmettre l'amour de l'humain, justement, et transmettre à mes semblables, aux autres humains, donc cette connaissance que j'ai pu acquérir.
Alors, toutes vos études se font en français, donc à Saïgon. Donc, cette langue du français représente quoi pour vous?
Oh, c'est beaucoup de choses. Vous savez, j'ai toujours aimé la langue française. J'ai une grande admiration pour l'histoire et la culture française. Et je me suis toujours efforcé de la garder vivace en moi. Ce qui étonne beaucoup mes collègues américains, d'abord. Moi, je vis aux États-Unis plus de 40 ans maintenant. Et j'écris toujours en français. Ils ne comprennent pas, vous savez. Mais pourtant, c'est la langue dans laquelle j'exprime le mieux mes idées. Parce que j'ai grandi avec les romanciers, les philosophes français. Et c'est la langue qui me parle. C'est la langue dont je sens la sonorité. C'est la langue qui me semble la plus poétique pour exprimer mes idées. Et donc, quand j'écris un ouvrage de vulgarisation scientifique, ce n'est pas seulement l'information que je veux communiquer, mais aussi, il faut que ce soit agréable. C'est comme si le lecteur lisait un roman. Donc, il voulait connaître la fin, donc il tourne les pages sans s'en rendre compte. Parce que la science, je trouve que ça peut être aride, difficile. Et si on perd le lecteur, vous savez, cette transmission de la connaissance que je voulais, donc à travers l'idéal confucien, se perdrait. Donc, je ne réaliserais pas mon but. Et donc, je voulais un langage fluide que je dominais, dont je sentais la poésie et la sonorité, et c'est la langue française.
Donc, la langue française, une sorte de véhicule que vous avez rencontré, découvert, adopté et gardé à jamais.
Tout à fait.
Pour justement acquérir cette somme de connaissances. Et puis, comme vous le disiez très bien, la langue française véhicule et renfermant une poésie qui permet de mettre ce niveau de connaissance au même plan qu'au niveau de la poésie, qu'au niveau de l'imaginaire.
Tout à fait, tout à fait. C'est très important pour moi et c'est pourquoi j'ai été très, très fier et honoré que l'Institut de France et les académies en France, donc les gardiens de la langue française, aient reconnu donc, cette œuvre. Et donc, ils m'ont, donc, vous savez, le prix Del Duca, donc, qui récompense mon œuvre littéraire. Donc, les lauréats, comme, vous savez, que j'admire beaucoup, Borès, Gundera ou Loza, qui sont tous des maîtres de la langue, en fait. Et donc, j'étais très, très ému que cela ait été reconnu par l'Institut de France.
Et finalement, oui. À travers cette langue française, on voit la même démonstration que vous nous apportez par rapport à votre œuvre, c'est-à-dire ce mélange du jeu, de l'être profond que vous êtes, à travers son vécu, l'héritage génétique, et puis votre investissement personnel, votre mission dans le langage scientifique. Finalement, cette langue renferme véhicule de connaissances, mais également poésie, comme tout votre parcours va vers l'investissement scientifique, mais sans oublier ce que vous êtes et tout votre parcours.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, je pense que toute mon œuvre reflète toutes les influences que vous avez déjà mentionnées, c'est-à-dire je suis né vietnamien, tradition confucienne et bouddhiste, et j'ai été éduqué à la française et j'ai acquis ma science dans les universités américaines. Tout cela, bien sûr, c'est un ensemble et qui, je pense, est reflété dans ce que j'écris.
Justement, on ne fera pas l'impasse de la page 27, je vous en fais une lecture. Ma famille n'ayant pas de tradition scientifique, la balance penchait plutôt du côté littéraire. Mes grands-pères mandarins étaient des lettrés. Mon père magistrat n'avait pas d'affinité spéciale avec la science. Nous avions souvent de longues discussions sur des sujets très variés et il s'impliquait beaucoup dans mes études, mais n'exerçait aucune pression, me laissant entièrement libre. Finalement, ce furent mes lectures qui m'aidèrent à faire mon choix. Parmi les nombreux ouvrages que je rapportais du Centre culturel français, il y en avait plusieurs sur la vie d'Albert Einstein qui avaient attiré mon attention. « Comment je vois le monde », où le physicien parle de sa science et de ses choix philosophiques et politiques, était mon livre de chevet. J'étais fasciné par le parcours de cette figure majeure du XXe siècle. J'appris avec étonnement et émerveillement que les grandes découvertes scientifiques du siècle dernier, l'expansion de l'univers et la physique quantique et les révolutions technologiques qui ont profondément modifié notre existence, la bombe atomique ou le laser, portaient toute la marque de son génie. J'éprouvais une admiration sans borne pour l'inventeur de la relativité, ce symbole de l'intellect pur, ce prototype du professeur distrait aux cheveux ébouriffés, perdu dans ses pensées et au visage empreint de bonté et d'humanité. Son non-conformisme, sa tendance naturelle à se rebeller contre l'autorité et les idées reçues, son engagement pour les causes humanitaires, telle son opposition à l'armement atomique ou son militantisme en faveur d'un État palestinien vivant en coexistence pacifique avec Israël, frappait mon imagination. Son sens passionné de la justice et de la responsabilité sociale me séduisait. Une des choses que je redoutais en choisissant la science et une carrière dans la recherche, c'était de m'isoler dans une tour d'ivoire et de me couper de la société et des affaires du monde. Je pensais que devenir scientifique, c'était un peu comme prononcer ses vœux et devenir moine. L'exemple d'Einstein me montrait que ce n'était pas nécessairement le cas. C'était décidé, je suivrais ses pas, je deviendrais physicien. La science me convenait bien. Curieux de nature, fasciné par le fonctionnement de l'univers, je me posais sans cesse des questions sur le comment et le pourquoi des choses. Sur votre héros de jeunesse, un certain Einstein. Ouais. Alors dites-moi, pourquoi et pourquoi lui vous a dirigé vers la physique?
Oui. Bon, Einstein d'abord, c'est un génie scientifique. Je pense que ça, tous mes collègues en sciences le diront. Mais c'est au-delà du génie scientifique pour lequel j'admire le personnage. Vous savez, il est un grand humaniste aussi. C'est ça qui a vraiment captivé mon attention quand j'étais jeune. Parce que c'est non seulement le père de la relativité, l'un des pères de la mécanique quantique, parce que c'est lui qui est le premier à dire que lumière n'est pas exclusivement onde, mais aussi particule, mais aussi quelqu'un qui réfléchit profondément à la condition humaine. Par exemple, vous savez, c'est l'une de ses formules qui est à la base de la bombe atomique. Et d'ailleurs, c'est lui qui a écrit à Roosevelt, au président américain, de commencer le projet Manhattan pour construire la bombe atomique, parce qu'on pensait que Hitler l'avait déjà, ou était en train de le construire et était sur le point de l'aboutir. Et ça aurait été une catastrophe si Hitler avait la bombe atomique avant les Alliés. Mais après qu'il a vu la dévastation d'Hiroshima et de Nagasaki, Einstein s'est tout de suite milité contre l'armement nucléaire. Il a utilisé son immense prestige pour essayer de stopper cela.
Et c'est un éternel amoureux de la beauté de l'univers.
Ouais, oui.
Comme vous.
Tout à fait. Et tellement sensible à la beauté, l'harmonie de l'univers. Et il parlait toujours de Dieu, vous savez. Mais Dieu, bon, pour lui, ce n'est pas un être barbu. C'est d'ailleurs le même principe que moi. C'est les lois physiques qui règlent, qui donnent la beauté et l'harmonie de l'univers, justement. Ce n'est pas un être barbu qui crée ex nihilo un univers. Mais voilà. Donc,
un processus.
J'appelle ça un principe créateur, donc qui se manifeste par les lois physiques, les constantes physiques qui donnent l'harmonie et la beauté de la nature. En fait, cet arbre, vous savez, est réglé par des constantes physiques comme la charge électron, la masse électron ou la constante de Planck, etc. Donc tout cela détermine la beauté et la complexité du monde.
Alors Einstein disait, il y a deux façons de voir le monde, soit de dire de façon catégorique « le miracle n'existe pas », soit de considérer que chaque chose, chaque petite brindille de la vie est en soi un miracle.
Oui, et je partage entièrement cette vue. C'est vraiment C'est ce que Blake disait, l'infini dans la paume de la main. On voit le monde dans un grain de sable. Tout est interconnecté. Vous voyez, de nouveau, en fait, cela rejoint d'ailleurs la philosophie bouddhiste. J'espère qu'on aura le temps un peu parler. Cette interdépendance des choses aussi.
Allez-y, alors l'interdépendance des choses dans la philosophie bouddhiste.
Oui, oui. Et donc, ça, c'est un autre pan de ma vie, hein, le cosmos, mais il y a aussi le lotus. Et donc, j'ai exploré cela avec mon ami Mathieu Ricard. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment pour moi un besoin de cohérence intellectuelle. Parce que si le bouddhisme est vraiment un système de pensée qui est logique et cohérent, parce qu'en fait, et moi je pense même que c'est une philosophie, une façon de voir la nature, parce que ce n'est pas une religion. Vous savez, le bouddhisme, Bouddha n'est pas Dieu, il ne s'est jamais prétendu Dieu, il est seulement un guide de voyage, il a trouvé la voie, mais c'est chacun de nous de parcourir cette voie pour aboutir à l'éveil. Et donc, les trois principes fondamentaux du bouddhisme, par exemple, c'est d'abord, c'est l'interdépendance. Tout est relié, rien n'existe par soi, intrinsèquement soi-même. Et c'est le thème de toute la science du XXe siècle. Par exemple, on a découvert que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Les étoiles sont nos ancêtres. Tous les atomes que nous avons dans notre corps, sauf l'hydrogène et l'hélium, ont été faits à l'intérieur des étoiles. Donc, nous partageons tous la même géologie avec cette fleur, cet arbre. Nous sommes les cousins des coquelicots des champs, mais aussi les frères des bêtes sauvages. Vous voyez, donc, on est tous interdépendants et surtout interdépendants de cette belle terre aussi que nous sommes en train, malheureusement, de détruire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'interdépendance. Et puis, il y a le thème de l'impermanence. Tout change, tout bouge, tout évolue. Et en fait, l'évolution, bien sûr, c'est le thème fondamental de la science du XXe siècle aussi. Vous savez, depuis Aristote, l'Ouest pensait que l'univers était immuable. Le ciel étant le domaine des dieux et Dieu étant parfait, on ne peut pas améliorer ce qui est déjà parfait. Donc, le ciel doit être immuable, inchangeant. Et ça a duré 20 siècles, jusqu'à la Renaissance, où les gens commencent à accepter que le ciel peut changer, comme Tycho Brahe qui découvre une supernova, donc une étoile qui apparaît comme ça dans le ciel, ou une comète qui vient nous visiter, etc. Et puis, bon, bien sûr, la théorie des Big Bang, qui est avec nous depuis les années 60, dit que l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense, dans un Big Bang, donc et il y a une grande déflagration, et maintenant tout change, tout évolue, toutes les galaxies s'éloignent de nous dans cet univers, et dans cet univers, bien sûr, tout ce qui contient change et évolue aussi. Les étoiles naissent, vivent leur vie et meurent, pas sur des gestelles de 100 ans comme les êtres humains, mais sur des millions, voire des milliards d'années. Et puis, bon, Darwin, bien sûr, a introduit l'évolution dans la venue de l'homme. On pensait avant lui que l'homme descendait tout fait comme ça, d'Adam et Ève. Maintenant, nous savons que nous sommes tous les descendants d'une cellule primitive. Et donc, à travers les poissons, les insectes, les oiseaux, les chimpanzés, etc., ça a mené à l'homme.
Mais ces mécanismes simples à la base, ce mécanisme reste le même pour tout le développement? Le mécanisme de la particule qui a engendré toute
oui,
cette...
Oui, parce que l'univers est dicté par tout ce qui arrive, nous arrive, et toutes les propriétés de l'univers est dicté par une quinzaine de constantes physiques. Hein, c'est la masse de l'électron, la charge sur l'électron, la constante gravitationnelle, la constante de Planck, etc. Et puis les conditions initiales, l'expansion initiale de l'univers, la quantité d'énergie noire, la quantité de masse noire, etc.
Et ça, ce sont des principes sur lesquels on ne reviendra, à votre avis, jamais. Ce sont des principes fondamentaux acquis
de
par la science.
De la physique, enfin, on ne pourra jamais dire que la science est figée, tout ça, parce que toujours une nouvelle révolution peut survenir. Mais jusqu'à nouvel ordre, c'est comment les physiciens voient le monde. C'est-à-dire... il y a quelques constantes physiques et puis quelques conditions initiales qui déterminent toutes les propriétés du monde et même notre existence ici.
Oui, mais vous avez parlé de théorie du Big Bang, donc cela reste une théorie.
Oui, mais la théorie qui, jusqu'à nouvel ordre, décrit le mieux tout ce que nous savons de l'univers. Vous savez, la science est différente d'une religion ou d'une foi de ce point de vue. Les choses doivent toujours évoluer en fonction de l'observation et de l'expérience. Rien n'est figé. Mais il y a toujours une théorie, ce qu'on appelle un paradigme, qui explique le mieux l'ensemble des observations, des connaissances qu'on a de l'univers. Et s'il y a justement quelque chose qui vient contredire ce paradigme, il faut le tenir en compte et modifier ce paradigme.
Alors, donc, dans cet ouvrage, paru chez Albin Michel, « Le cosmos et le lotus », ce qui est très sympathique, c'est que grâce à l'énoncé de tout votre parcours, à travers votre vie familiale, personnelle, à travers votre découverte de la physique, de l'astronomie, grâce à toutes vos confidences personnelles, eh bien, vous remettez en mémoire du lecteur que nous sommes l'état des connaissances, leur évolution en physique, en astronomie. Vous nous rappelez tout ce cheminement mais en donnant chair à tout ce que vous dites, parce que chaque fois, c'est rapporté à des expériences personnelles.
Personnel, tout à fait.
Et donc, c'est cette générosité que je soulignais tout à l'heure. Alors, pour terminer, nous n'allons pas répondre à la question qui est centrale dans cet ouvrage et dans laquelle vous répondez avec votre langage personnel, cher Trinh Xuyen Thuan, à savoir si tout cela a un sens, si l'univers a un sens. Nous laisserons au lecteur le plaisir de déguster votre réponse, d'être à votre côté. Seulement, avant de nous quitter, si vous pouviez nous faire rêver par rapport à ce domaine qui est le vôtre, celui de la lumière.
Oui.
Alors, si vous pouviez nous envoyer un peu de lumière dans nos existences, par rapport à Confucius et à vos découvertes sur la lumière, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour enjoliver et nous donner cette joie de vivre ?
La lumière, moi je pense que c'est le lien entre l'homme et l'univers. L'univers nous envoie un code cosmique, et c'est en déchiffrant ce code cosmique que l'homme peut reconstituer cette longue histoire cosmique de 14 milliards d'années qui débouche sur nous.
Merci de nous aider à déchiffrer ce code. Merci, cher Trinh Xuyen Thuan.
Merci.